bien. Donc, en fait, quand Eric m'a invité à parler ici, j'ai pas réfléchi à ce que je pouvais présenter. Et je me suis dit que finalement, une solution, ça pourrait être de parler de quelque chose de relativement concret qui a à voir avec le terme de la journée, qui est un sujet sur lequel on essaie de travailler, sur lequel on a commencé à travailler récemment, qui s'intéresse à ce que j'ai appelé une histoire numérique des ondelettes. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, ondelettes, c'est, en anglais, ça se dit wavelets. Et c'est quoi? En fait, c'est des objets mathématiques, essentiellement. Donc, la théorie des ondelettes, c'est une théorie mathématique qui va, d'une certaine façon, au-delà de l'analyse de Fourier. Donc, l'analyse de Fourier, je tiens pour relativement acquis que tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit, c'est-à-dire que ça correspond à représenter une fonction ou quelque chose, un signal, au moyen de beaucoup d'ondes, une superposition d'ondes. Donc, une forme quelconque, d'une certaine façon, peut être représentée comme une superposition d'oscillations, de sinus et de cosinus de différentes fréquences. Alors, c'est une très très belle théorie, on a fêté les 200 ans il n'y a pas très longtemps, etc. Mais elle a un défaut d'interprétation, entre guillemets, c'est que ça repose sur une décomposition sur des objets qui n'ont pas de localisation temporelle. Donc, une onde monochromatique, c'est un objet totalement délocalisé. Et donc, on crée éventuellement des objets localisés en superposant beaucoup d'objets délocalisés de manière à ce que quelque part il y ait des interférences destructives en dehors des supports. Donc c'est pas extrêmement performant au niveau de la description. Et donc les ondelettes sont arrivées dans les années 80 comme un nouveau concept pour avoir une représentation de type Fourier mais dans laquelle les oscillations seraient localisées. Donc on aurait à la fois une notion d'oscillation qui permet de rendre compte de fréquences, mais en même temps une notion de localisation temporelle, donc d'événement. Et donc ça fait une double vision. Et en plus, ça a été fait de telle sorte que les différents objets sont liés entre eux par une invariance moyennant un changement d'échelle, ce qui fait que ça permet de faire l'équivalent d'une certaine façon d'un microscope mathématique qui fait un zoom avant et un zoom arrière sur des objets et qui se trouve fournir des représentations extrêmement parcimonieuses pour beaucoup de signaux et d'images du monde courant. Il y a des standards qui améliorent un petit peu les standards classiques JPEG avec ces objets-là. Donc les ondelettes ont petit à petit envahi des domaines d'applications scientifiques, technologiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui a vraiment surgi dans les années 80, donc qui a une date de naissance d'une certaine façon, qui ensuite a diffusé, qui a atteint une période où on peut considérer que maintenant c'est relativement stabilisé, pour lequel il y a quand même encore beaucoup d'acteurs qui sont présents. Alors, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, il y a un folklore qui existe autour des ondelettes, c'est que c'est le prototype d'une interaction interdisciplinaire, c'est quelque chose qui a vu l'émergence d'un nouveau paradigme sur lequel beaucoup de gens se sont rattachés, donc qui venaient d'origines diverses, et ça a d'une certaine façon remodelé un peu le paysage scientifique en cassant des cloisons qui pouvaient exister. Alors, ça c'est une opinion assez partagée, mais qui reste une opinion assez qualitative, un petit peu floue. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on pourrait aller un petit peu au-delà et profiter justement d'outils qui viennent de différentes formes d'approches numériques pour trouver des preuves, entre guillemets, ou en tout cas de meilleures perspectives qualitatives et quantitatives. Et une façon de faire, ben, c'est en fait d'interroger des bases de données bibliométriques qui contiennent beaucoup d'informations, et puis de voir à travers ces bases de données bibliométriques si on voit effectivement se redessiner le paysage tel qu'on l'imagine. Donc ça, c'est à la fois quelque chose qui est figé dans le temps parce qu'on a des arrêts sur image à certains instants, à la naissance, un peu plus tard, etc., puis à la fois dans la dynamique et l'évolution. Donc ça, c'est une étude qui est en cours à l'ICSI en ce moment avec Pablo Jensen, Matteo Morini et Katharina Varadinets, et dont je vais donner des premiers éléments. Et en fait, bon, c'est aussi pour discuter sur les ouvertures que ça peut permettre d'avoir sur d'autres questions que l'étude de cas qui est présentée ici. Alors, de quoi s'agit-il? Alors d'abord, il faut savoir un peu de quoi on parle, parce que si on va dans une base de données comme le Web of Science et qu'on interroge par des mots-clés, si on fait la requête wavelet étoile, là, d'abord, on trouve qu'il y a énormément de choses. Là, il y a dans les 80 000 papiers. Et là-dedans, il y a à boire et à manger par rapport à notre sujet d'intérêt. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu mieux, on voit que là, je les classe par du plus ancien au plus récent. On voit qu'on a des papiers qui sont dans les années 20, par exemple, 1920. Donc ça, c'est largement avant l'émergence. Alors on peut regarder, par exemple, là, en octobre 1926, on a un papier qui s'appelle Gastric Wavelets. Alors ce papier Gastric Wavelets n'a rien à voir avec les ondelettes qui nous intéresseront après. Donc là, ça décrit physiologiquement, dans des signaux qu'on appelle des électrogastrogrammes, après, quand ils seront mesurés, ce qui à l'époque c'était plus qualitatif, qui sont des petites ondes au niveau stomacal qui se propagent, etc., et qui sont décrites. Alors, bon, c'est un petit peu ironique, j'ai choisi cet exemple, parce que ça, c'était en 1926, et ça n'avait rien à voir, parce que en 2007, il y a des gens qui précisément ont utilisé la théorie des ondelettes dont je vais parler, pour étudier l'électrogastrogramme. Alors, ils n'ont fait aucune référence à ce papier-là, mais disons que l'électrogastrogramme est venu un objet d'intérêt pour les méthodes d'analyse en ondelettes en question. Alors, plus sérieusement, comment est-ce qu'on procède ? Alors, il faut faire différents tri. Alors, il y a une remarque qu'on peut faire, d'abord, c'est le point qui est au milieu, là. C'est que si on se dit qu'il y a une évolution du paysage scientifique, ça met en jeu des acteurs, et ces acteurs, il y a au moins deux catégories d'acteurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont participé à la naissance, mais qui étaient déjà des scientifiques engagés dans une vie scientifique dans certains domaines. Donc c'est ce que j'appelle les acteurs d'avant, qui sont là. Et puis il y a très rapidement des gens qui sont nés aux ondelettes, d'une certaine façon. Qui sont nés, alors leur vie scientifique est marquée du saut des ondelettes parce qu'ils ont commencé leurs travaux scientifiques là-dedans. Donc pour les gens qui connaissent un peu le domaine, par exemple, Alex Grossman, dont on va peut-être parler un peu, qui est un des pères fondateurs de la théorie, avait déjà une vie scientifique importante en physique mathématique, et puis la jeune génération comme Stéphane Mallat est arrivée dans le domaine puisqu'il a fait sa thèse, et en faisant sa thèse, en vision par ordinateur, il a compris que ça avait à voir avec les ondelettes et il a révolutionné le domaine en faisant des apports majeurs, mais lui je l'appellerais un acteur natif. Donc il faut être capable de prendre un peu les deux, et évidemment pour les acteurs d'avant et les acteurs natifs, il faut regarder les choses qui temporellement dans les bases de données sont plus larges que la période où se développe la discipline. Alors on a fait un choix, c'est qu'en 93, où la théorie avait quand même bien pris sa place, il y avait un Wavelet Literature Survey qui nous a aidé parce que c'était une bibliographie raisonnablement cumulative, à l'époque c'était encore possible, sans avoir les outils du Web of Science, mais disons on se connaissait par les colloques, les réunions, les journaux, etc. Donc gros tout ce qui a été publié dans le domaine jusqu'en 93. Donc c'est un petit pavé qui est comme ça. Donc à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des seuils, 5-7 articles minimum par personne, pour dire des contributeurs raisonnablement majeurs. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être discutées, s'améliorer, mais disons ça donne l'idée. Et ça aboutit à finalement quelque chose qui concerne 82 auteurs. Et cette fois-ci, quand on fait le retour arrière dans le Web of Science, ça fait un corpus de 6500 articles à peu près. Oui. C'est-à-dire que les 1000 articles, par exemple, je prends le cas de Grossman. Grossman, dans cette Wavelet Literature Survey, il a, mettons, 10 articles. D'accord ? Mais avant d'être le Grossman des ondelettes, il a été le Grossman de la mécanique quantique, qui avait déjà publié 82 articles, peut-être. D'accord ? Et donc, si tu fais ça pour l'ensemble des gens en question qui sont dans cette base, t'as tout un ensemble d'acteurs qui ont été moteurs dans le développement de la discipline, mais qui venaient d'autres. Et eux, ils ont leur historique qui est dans la base de le Web of Science. Et ça, on l'inclut, parce que justement, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ils sont arrivés aux ondelettes, d'où ils sont. Voilà. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de voir si on pouvait quantifier cette idée qu'ils sont venus de quelque part en créant quelque chose qui est devenu, qui s'est identifié par ce concept fédérateur d'ondelettes, et éventuellement, où est-ce qu'ils sont partis après. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a plus d'articles ici, globalement, que dans... Ça nous a permis d'identifier, les acteurs relativement clés, toujours un peu difficile. Alors, exemple, donc si on prend un article, on récupère beaucoup d'informations. Donc là, c'est Katharina, je ne sais pas du tout comment elle a fait exactement, c'est Katharina qui sait gérer les bases de données. Elle récupère le Web of Science, et elle récupère tout dans des grandes bases de données. Donc on a des informations du genre en titre, on ne voit pas trop bien, on a le journal dans lequel c'est publié, on a les auteurs, on a des mots-clés, et on a aussi les références qui sont citées par ces articles-là. Okay. Donc tout ça, ça nous fait des choses qu'on peut analyser à la manière des réseaux hétérogènes que Pablo avait proposé avec Sébastien Grosvin. Donc les données, c'est ce qui vient de l'Easy Web of Science sur les auteurs identifiés. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, en fait, on regarde ce qu'il en est de graphes d'interaction entre tous ces objets-là, en considérant que les graphes sont définis pour leur nœud par tout un ensemble d'attributs, qui peuvent être les auteurs, les références, les mots-clés, les disciplines. Et on considère qu'il y a lien à partir du moment où il y a co-apparition de ces attributs dans une même publication. Et alors après, on peut pondérer les liens suivant la force, on peut pondérer la taille des nœuds suivant le poids qu'ils occupent, etc. Et pour voir ce qu'il en est de l'organisation, ben finalement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un graphe avec des dépendances. Donc il y aura des endroits où il y aura beaucoup de liens entre des groupes d'attributs. Il y a d'autres endroits où il n'y aura pas de liens, où il y aura des liens lâches. Et l'ensemble va s'organiser sous une forme d'îlot, éventuellement, qu'on peut rattacher à des communautés, au sens de la théorie des graphes. Et donc, on va s'intéresser à identifier ces communautés. Et pour ça, on va le faire en prenant un descripteur, qui est ce qu'on appelle la modularité du graphe, au sens de Newman, avec des algorithmes empiriques associés, qui sont comme l'algorithme de Louvain de Blondel, qui essaie de maximiser la modularité, c'est-à-dire de faire en sorte que les éléments qui sont le plus liés se retrouvent dans un même paquet, et de telle sorte qu'ils soient plus éloignés d'un autre élément qui est dans d'autres paquets. Donc alors, il y a des mesures quantitatives qui sont liées à la modularité, et puis il y a des mesures qualitatives qui sont liées à la façon dont on visualise les réseaux en question. Et les deux, évidemment, sont liés. Alors là, on choisit par commodité, avec toutes les restrictions d'usage, je pense que Eric pourra intervenir là-dessus, et on peut en rediscuter. On utilise un outil qui est un outil qui est visuellement intéressant, qui fournit des cartes à deux dimensions, qui repose sur une base d'algorithmes de force, c'est-à-dire qu'on simule un système physique dans lequel il y a des nœuds qu'on considère comme des particules chargées, qui, si on les met ensemble, ont toute tendance à se repousser et s'écarter les unes des autres. Puis par contre, comme il y a des liens, on voit les liens comme des ressorts qui ont tendance à faire un rappel pour les empêcher de partir à l'infini. Et évidemment, plus il y a des liens, bah, plus la force de rappel va être importante, et plus il va y avoir cette agrégation. Et quand il y aura des liens entre un ensemble de nœuds qui partagent beaucoup de choses, ils seront dans un même paquet, et on retrouve la notion de modularité que j'avais avant. Voilà. Alors, petite démo vite fait de GFI, juste pour montrer comment ça se passe. Où est passé mon GFI ? Il est là. Voilà, donc ça c'est un exemple sur, bon, il ne faut pas regarder le détail, et puis c'est juste pour voir ce qui se passe. Là on met au départ tout le monde dans le cas d'un... Zut, j'ai oublié de prendre la souris. Tout le monde qui correspond à une période entre 1980 et 1983. Il faut un bouton droit. Elle a un clic droit ou pas ? Ah non, j'ai pas de souris. Non, je l'ai. Bon, c'est pas grave. On va voir ce qui se passe parce que. Non, mais je peux y arriver avec les mains. Je peux y arriver avec les mains, je crois. Donc, voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part d'une spatialisation qui est aléatoire. Et puis ensuite, bon, il y a différents algorithmes. Là, je prends encore sa classe 2. Bon, c'est pas. Là, bon, tout ça, encore une fois, c'est l'aspect conceptuel qui est intéressant, c'est pas le détail de cette mise en œuvre. Donc là, je vais lancer l'exécution. D'accord. Voilà. D'accord. Okay. Donc quand on lance l'exécution de cette force, de cet algorithme, on voit qu'en fait, attends, est-ce que je peux. Voilà. Voilà. Donc on voit ce qui se passe, c'est qu'en fait on récupère des îlots où ici on a des regroupements. Alors bon, il faut attendre que ça se stabilise, etc., etc. Je ne vais pas entrer dans ces considérations, mais une fois qu'on a ça, après on peut faire des zooms avant pour aller regarder et éventuellement retrouver les identifiants. Comment ? Oui, c'est des composantes fortement connexes. Donc normalement, on doit pouvoir... Voilà. On peut après voir apparaître les identifiants qui sont soit des auteurs, des titres de journaux, des sujets, etc. Voilà. Donc ça, c'était pour expliquer comment les choses se mettent en place. Et je vais revenir dans la présentation. Et donc regardons ce qui se passe. Alors ce qui se passe effectivement, si on prend la période 80-83, j'ai dit que c'était en gros à ce moment-là que les choses se mettaient en place, parce qu'en fait le papier fondateur, le week-end dernier on a fêté ses 30 ans, il a été publié en 84, donc évidemment il était dans l'air sous forme de préprint et de papier de conférence vers 82 à peu près, donc c'est le papier de Grossman et Morlaix, mais il n'empêche que c'est la période 80-83, une période essentiellement pré-Wavelet. Donc c'est avant. Alors ce qu'on voit effectivement qui est intéressant, c'est que on a affaire à des domaines qui sont des gros domaines d'identification relativement séparés. Donc si on regarde ça comme une carte avec des îles, des ponts et tout ce qu'on veut, on a quand même quelques gros paquets. Donc on a le gros paquet du côté des mathématiques, et on voit que du côté des mathématiques, on retrouve des acteurs qui après seront des bons acteurs et qui sont des gens qui viennent essentiellement de la théorie de l'approximation, avec des gens comme Chui, Damon, ou des gens comme ça. On a un gros paquet qui vient du côté de la physique et de la physique mathématique. Là, je n'ai pas encore coupé en deux, mais la physique, c'est à la fois la physique des systèmes dynamiques, et on voit les noms de Couler, Néodo, ces gens-là, des gens de la turbulence, Frisch, et puis les gens de la physique mathématique, où on voit un nom qui va réapparaître, qui est celui de Bobuchi, Ingrid Bobuchi, qui était à l'époque, qui venait de finir une thèse en physique mathématique. Puis on voit un paquet qui est du côté de l'electrical engineering, donc la science des ingénieurs, automatique contrôle, un peu de signal. Et puis on voit quelques outliers aussi qui sont du côté de la théorie du signal, au sens ce qui s'était fait avec Gabor, etc. Et puis un gros paquet avec un monsieur qui s'appelle Zhu, qui est du côté de l'optique, où en fait les gens faisaient des choses en optique, mais encore de manière disjointe de cette idée. Alors, donc ça c'est pour dire juste qu'effectivement, on a bien cette perception que, en regardant ce qui se passe avec les acteurs qui ensuite seront les acteurs effectifs, on a auparavant des gens qui finalement se connaissaient peu et collaboraient peu et travaillaient peu ensemble, même s'il y avait quand même quelques ponts qui existaient par certaines références croisées ou des choses de ce genre-là. Alors, si on regarde ce qui se passe en cours et on prend la période 84-87, alors cette fois-ci, on a lancé la machine. 87, c'est le premier colloque appelé Ondelet en tant que tel qui regroupe véritablement les gens qui vont faire naître la discipline. Ben, ce qu'on voit cette fois, c'est qu'on a toujours les gros paquets maths, electrical engineering, physique, etc. Mais on a la partie de la physique mathématique qui est en train de migrer par ici, avec Dobschi, Grossman et Morlaix, et qui commence à faire ce pont avec les gens qui font de l'electrical engineering. Et si on avance un peu, donc on prend la période 87-90, ben on voit que déjà on commence à avoir une bobine de fil beaucoup moins facile à débobiner, et on regarde à l'intérieur et on voit que cette fois-ci effectivement ce qui est au centre c'est le mot wavelet qui est apparu comme étant un mot fédérateur qui regroupe de trois côtés des gens qui viennent des maths, qui viennent de la physique, qui viennent de l'electrical engineering, puis on a des petits îlots qui partent, qui peuvent être liés à des applications. Là on pourrait passer des heures à aller explorer tous ces domaines-là, on ne va pas le faire. Et puis si on regarde ce qui se passe à ce qu'on appelle la maturité, quand on est à la période 91-94, donc qui est la fin de ce qui nous avait servi à établir la base de référence, ben on voit que cette fois, on a quand même un énorme paquet où tout est assez mélangé, et en particulier, grâce à des travaux comme ceux de Debussy, Mala, il y a un mariage qui se fait entre le monde des mathématiciens, le monde des ingénieurs et de leurs algorithmes, et puis le monde des applications et de la physique. Alors, ça c'est brut. Alors finalement, qu'est-ce que... Là, je voudrais juste donner quelques points sur ce que ça nous apprend et puis qu'est-ce qu'on peut dire pour aller un peu au-delà, pour en discuter. c'est que ce nouveau paradigme qu'on voit se créer, là, qui s'appelle Ondelette, qui en effet rejoint, et les premières conférences, c'était un excellent exemple, puisque c'était des conférences dans lesquelles on côtoyait aussi bien des biologistes que des astronomes, que des mathématiciens, que des informaticiens, que des traiteurs signaux. Bah, c'est, encore une fois, quelque chose qui marche sur les trois pieds assez classiques, on va dire, de ce qui fait le succès d'une approche scientifique en première approximation, qui quelque part, il y a une raison physique au sens large, qui peut être une physique qui s'ancre... une approche qui est du côté des mathématiques qui servent à le formaliser, et puis il y a une approche du côté informatique qui fait qu'il y a des algorithmes qui font tourner les trucs. Alors, ça c'est exactement le cas. Si on dit que physique c'est quelque part du côté de applied, même si c'est réducteur, que informatique c'est computational, et mathématiques le substrat c'est l'analyse harmonique, ben on voit que ça fait applied and computational harmonic analysis. Ça c'est le journal qui a été créé justement en 94 avec cette communauté là, et qui a choisi volontairement de ne pas s'appeler wavelets, mais de s'appeler de manière plus large une vision des sciences computationnelles. Donc on peut rediscuter de ces questions aussi dans les redécoupages scientifiques, qui est autour de l'analyse harmonique. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive, parce que finalement, si sur les ondelettes ça s'est passé comme ça parce que l'origine c'était l'exploration pétrolière avec Morlaix, donc c'était de la physique et de la vibrosismique. Si du côté des mathématiques, avec des gens comme Meyer, Debussy, etc., ça a été toutes les améliorations de l'analyse harmonique, c'est aussi avec des gens comme Malak, on a eu tous les algorithmes rapides qui ont fait tourner l'ensemble, et avoir des algorithmes de compression de données, etc. Bon, c'est un exemple qui est dans le droit fil de ce qui avait fait le succès de l'analyse de Fourier. Parce que l'analyse de Fourier, c'est quand même au départ un problème physique avec l'équation de la chaleur. C'est quelque chose qui a donné naissance à un corpus mathématique considérable qui a été tout le développement de l'analyse harmonique au XXe siècle et qui a véritablement infusé dans l'ensemble des sciences, parce que dans les années 60, il y a eu des machines pour faire des calculs, mais il y a eu des algorithmes, et en particulier l'algorithme dit Fast Fourier Transform, FFT, tous les tout-quais 65, qui a été totalement indispensable pour transformer une bonne idée en une pratique courante. Et si on voit ça, ben en fait, on voit aussi pourquoi il y a d'autres choses qui ont un peu les mêmes objectifs et qui marchent moins bien. Parce que si on prend, par exemple, des approches, j'ai expliqué ce qu'on voulait, c'était avoir à la fois une vue ondulatoire avec des fréquences, puis à la fois une vue localisée avec du temps, donc on peut voir corpusculaire si on veut. C'est le même problème qu'en mécanique quantique, Wigner avait posé en regardant une description qui était semi-classique de la mécanique quantique en position et impulsion dans un même formalisme. Et ça, c'est arrivé en physique, et c'est arrivé en sciences, en théorie de la communication, avec tout un arsenal de méthodes temps fréquence autour de Wigner, qui sont très intéressantes parce qu'elles ont un substrat physique réel, une bonne interprétation. Il y a des très belles maths qu'on peut faire, mais ça passe pas dans le domaine des applications concrètes, ou pas complètement, et pas autant, parce qu'il n'y a pas d'algorithme efficace qui permette de calculer. Donc là, c'est le pied algorithmique qui est en train de manquer. Puis si on regarde ce qui s'est passé dans une période plus récente, depuis les débuts des années 2000, il y a des méthodes qui arrivent, qui sont des méthodes qu'on appelle pilotées par les données. Ça, c'est une tendance actuelle, d'autant plus qu'on a de plus en plus de données. Donc il y en a une qui s'appelle la décomposition modale empirique, qui attire l'attention de beaucoup de physiciens, qui est très intéressante parce qu'elle a une interprétation intuitive. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Elle est très bien parce qu'il y a des algorithmes très simples de calcul qui permettent de la réaliser. Le problème, c'est qu'il est très difficile de la formaliser mathématiquement. Donc, les gens sont réticents à l'utiliser pour la base mathématique qui n'est pas aussi solide que celle des ondelettes. Donc, trois pieds, on est stable, c'est deux pieds. Quand on en a que deux, bon, on boite un peu et ça marche moins bien. Alors, on peut se dire, tout ça, on l'a regardé sur la période qui était la période 80-94, et puis qu'est-ce qui se passe après? Alors bon, on peut faire aussi des... On peut regarder un peu ce qui se passe dans l'évolution de la discipline. Alors, c'est par exemple des diagrammes cumulatifs, véritablement, de tous les papiers qui font référence dans leur sujet à Wavelet. Donc, bon, j'ai pas fait avec Ondelet, mais Ondelet, l'essentiel de la publication est en anglais, donc c'est Wavelet, les publications françaises sont très très marginales par rapport à ça. Donc, si on voit ce qui se passe, ben on voit les années, donc 90-95 à peu près au milieu. Et donc, la courbe noire, c'est la courbe brute Et la courbe rouge, c'est la courbe repondérée par le total des publications, parce que le nombre de publications est aussi quelque chose qui s'envole. Mais ça ne change pas grand-chose qualitativement, puisque ce qu'on voit, c'est que jusque vers le milieu des années 2000, on grimpe, et puis après, on se stabilise et on a tendance à redescendre. Alors là aussi, ça pose des questions intéressantes, parce qu'il y a plusieurs... Pourquoi est-ce que ça redescend ? Alors on peut émettre des hypothèses, il y en a certaines qu'on peut... Par exemple, il y en a une qu'on peut faire, c'est que finalement, le fait qu'il y ait moins de publications qui utilisent Wavelet dans les topics, c'est une preuve du succès. Parce que c'est devenu suffisamment... Disons, on a banalisé l'objet, de la même façon que les gens qui utilisent une méthode d'analyse spectrale en chimie ou je ne sais quoi, ils vont pas mettre Fourier dans les sujets et dans les mots-clés, parce que c'est devenu un outil relativement classique. Donc on peut le voir comme cette forme de banalisation. Après, on peut voir autre chose, c'est qu'effectivement, là, on l'a fait sur la base des gens qui ont été les acteurs dans la période jusqu'à 93, et puis ces gens-là, ils ont vécu des vies scientifiques qui peuvent avoir divergé, qui peuvent être partis ailleurs. Et en particulier, il s'est passé dans le milieu des années 2000, avec à peu près la même communauté, donc là pour les gens qui connaissent, c'est Dave Donoho, c'est les mêmes avec Candès, tous ces gens-là. Candès étant un des natifs au sens de ce que j'avais donné tout à l'heure. Ils ont créé un nouveau domaine qui d'une certaine façon s'appuie sur des idées qu'il y avait dans les ondelettes. L'idée des ondelettes, c'était d'offrir une description parcimonieuse des choses, parce qu'on s'aperçoit que si ça marche bien en compression, parce que pour décrire par exemple une image ou une scène, on a besoin de très peu de coefficients. Et les gens se sont posé une question qui est quand même assez intéressante. Après, bon, pratiquement c'est plus compliqué, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait ? On a une scène qu'on veut imager, eh bien les ondelettes c'est un succès parce que on prend toutes nos données, on fait une transformée et on s'aperçoit que si on n'en garde que 5%, mettons, et qu'on reconstruit, on n'arrive pas à distinguer le reconstruit de l'original. Alors on est content parce qu'en compression c'est très bien. Mais après on se dit, mais c'est quand même un peu idiot parce qu'on a pris 100 et on a acheté 95. Quoi. Alors est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte qu'on prenne tout de suite les 5% dont on a besoin ? Et donc qu'on mette la notion de compression non pas dans le traitement mais au niveau de l'acquisition. Alors évidemment il faut savoir lesquels choisir et en général c'est pas si évident. Alors là il y a des théories mathématiques très belles qui ont été développées autour de ce qu'on appelle le compress sensing, compressive sensing, compressive sampling, il y a différentes dénominations, qui est un domaine qui a complètement explosé. La courbe bleue c'est l'explosion sur ces thèmes là. Alors c'est vraiment zéro avant 2005 parce que le papier fondateur d'Onoho et celui de Candès c'est 2005. Donc il y a zéro avant, et ensuite ça grimpe, et effectivement si on regarde cette fois-ci la courbe verte comme étant une courbe relativement cumulée de ce qui était dans la communauté ondelette, et puis les gens qui y participaient, mais qui ont beaucoup investi leurs efforts sur d'autres mots-clés, qui sont les mots-clés autour du compress sensing, on s'aperçoit qu'on continue à avoir une activité qui monte au... Donc il y a un peu un transfert d'activité, puis il y a un troisième transfert d'activité, qui est en fait que si on regarde comment le nouveau paysage se dessine, il faut accorder un crédit moyen à cette image, elle est très récente et il y a peut-être un petit biais de données, donc je ne veux pas lui faire dire plus qu'elle ne peut dire. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a effectivement le corps que l'on avait précédemment, mais on a aussi des gros paquets qui sont liés à des catégories privilégiées d'applications. Et en particulier, on a beaucoup d'applications qui se sont développées en astronomie, en astrophysique. Et alors, bon, on sait que dans ces communautés-là, l'astronomie et l'astrophysique, c'est un peu comme la physique des particules. C'est des papiers qui mettent en jeu des dizaines, voire des centaines d'auteurs, qui sont en assez grand nombre parce que c'est des expériences très chères, très longues, qui sont largement valorisées. L'expérience Planck qui a relâché ses premiers résultats l'an dernier, ça a été 27 papiers simultanés, je crois, qui sont chacun signés par toute la communauté. Donc ça fait un paquet énorme qui a tendance à se cristalliser. Alors si on a des individus comme Jean-Luc Stark, par exemple, qui était issu de la communauté ondelette et qui a beaucoup travaillé pour infuser les ondelettes puis le compress sensing dans l'astronomie, lui-même est collaborateur de fait d'énormément de gens qui eux-mêmes sont collaborateurs de beaucoup d'autres et on se retrouve avec des gros paquets de ce type. Donc on a une diffusion dans les applications qui font que plus que l'objet central, c'est aussi dans d'autres domaines qu'on retrouve ça. Alors, je voudrais juste conclure en disant, bon, c'est bien, mais est-ce qu'on a appris quelque chose avec tout ça? Alors, c'est, bon, d'une part, l'étude que j'ai présentée, elle est préliminaire, mais bon, moi, j'avais envie de la présenter tout de suite pour justement que ça puisse être objet de discussion, éventuellement. Alors, bon, il y a des tas de restrictions, des tas d'objections qu'on peut apporter. Là, on a des cartes 2D pour juger de choses qui, a priori, devraient vivre certainement dans des espaces plus compliqués. On peut avoir des biais visuels d'appréciation. On repose sur des algorithmes de force qui valent ce qu'ils valent, etc. Mais il n'empêche, c'est un guide. Moi, je trouve que c'est un guide à l'interprétation qui est intéressant. Alors, évidemment, on peut rendre cette vue d'ensemble bien plus quantitative que ce que j'ai montré, parce que là, ce qu'on est en train de regarder, c'est par exemple comment est-ce que les indices de modularité, qui sont des nombres, qui eux sont un peu indépendants de la façon dont on visualise les choses, peuvent évoluer dans le temps. Donc ça, c'est intéressant. On peut regarder ce qui se passe avec d'autres indicateurs qui sont simplement du couplage bibliographique. Le fait qu'il y ait 2, 3, 4 références communes partagées par les articles. On peut faire plein de choses. On peut utiliser d'autres critères. Par exemple, on peut s'intéresser à des critères de quels sont les thèmes, les individus ou les journaux, par exemple, qui jouent un rôle clé en étant ceux qui sont les plus importants pour être le plus court chemin pour aller d'un endroit à un autre. Donc ça, c'est... Puis on pourrait s'amuser. Bon, on a des... Pierre Borgnard, qui est au labo, et puis son thésard Nicolas Tremblay, ont développé des algorithmes d'analyse en ondelettes pour identifier des communautés. Donc ça, c'est assez amusant de faire une analyse en ondelettes des communautés sur le graphe des ondelettes. Mais ça, on l'a pas fait parce qu'on n'a pas eu le temps. Alors, il y a d'autres questions. C'est que, évidemment, il faut se poser la question de quel est le biais de la façon dont on choisit les données et dont on les regarde. On a toujours tendance à interpréter par rapport à ce qu'on sait déjà. Alors, c'est un avantage et c'est un inconvénient. Donc, là-dedans, il y a un rôle des experts. Et ça, c'est pas mal d'avoir un retour des experts, parce que ce que je disais, c'est qu'ils sont tous là, quoi. Ils sont tous là. Alex, il était à Marseille le week-end dernier, il a 87 ans, mais il est là, quoi. Il est bien là. Et donc, on peut s'en servir à la fois comme des interlocuteurs, des grands témoins, quoi, avec de l'a priori, puis un retour sur les analyses qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'avec eux, on peut se mettre autour d'une table et puis aller chercher à l'intérieur du graphique, voir si... par exemple, bon, il y a un livre dont il n'était pas du tout évident que... à une époque donnée, il a joué un rôle important en termes de référence qui n'est pas resté véritablement pour les générations suivantes, mais qui, par contre, au début des années 90, était important. Ça, on n'avait pas trop l'idée que c'était comme ça. Et puis, en fait, bon, là, c'est une étude de cas, donc c'est ce que je dis. Là, on a une forme de contrôle. L'intérêt, c'est de savoir, est-ce que ça peut nous aider à comprendre, d'une part, comment on pourrait développer des outils. Donc des outils permettraient d'analyser ça, et qu'ensuite on pourrait appliquer à d'autres jeux de données. Après, bon, il y a toutes les tartes à la crème des questions, comment on fait un bon usage, un moins bon usage des données bibliométriques, etc. Et puis, bon, on a discuté un peu, on peut le voir ça aussi dans une perspective un petit peu plus large, peut-être, qui est une perspective de... Là, on l'a fait avec la naissance du paradigme ondelette, mais comment se redessinent des organisations de paysage scientifique avec une vue qui est plus bottom-up, comme on dit, que top-down. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, par exemple, ce qui est un problème compliqué, sans fin, que on a les mathématiques, la physique, la biologie, l'informatique, l'astronomie, je ne sais quoi, des choses, des catégories dans lesquelles on demande aux gens vous vous trouvez comment, bah, ils diront, ouais, moi je suis quand même plutôt mathématicien, mais enfin quand même je fais des algorithmes, alors l'informatique j'aime bien. Il y en a un autre qui dira je suis informaticien, mais l'informatique, en même temps je suis tellement dans les neurosciences que je ne suis pas qu'informaticien, donc c'est un peu compliqué. Donc si on prend une approche dans l'autre sens, bah, on peut se dire qu'est-ce qui fait qu'il y a des communautés scientifiques qui s'organisent. C'est pas forcément parce que M. Comte ou d'autres nous ont dit on a ces cases et puis on se met là et puis on en choisit une. Éventuellement, on a une option d'en choisir une deuxième en choix secondaire, comme dans les classifications, CNU, CNRS ou autre. C'est peut-être de se dire on est ensemble, enfin on se reconnaît comme appartenant à une famille scientifique parce qu'on partage un certain nombre de choses qui peuvent être des références communes, qui peuvent être des thématiques communes, des choses de ce genre. Elles peuvent être un peu transdisciplinaires, Et avec ce genre d'approche, on peut se dire, eh ben, peut-être qu'on peut voir émerger ces domaines. Alors, bon, on ne l'a pas fait, hein, mais ça a été fait dans d'autres contextes pour regarder justement la réalité de l'interdisciplinarité dans les institutions scientifiques, ça c'est ce que fait Pablo. Mais on pourrait peut-être le voir au niveau des disciplines et voir si ça apporte quelque chose d'informatif avec, là encore, tous les dangers qui sont que c'est des choses qui ont des échelles de temps avec lesquelles il faut jouer avec prudence. Parce qu'il y a des effets de mode, il y a des tas de... Voilà, il y a des effets. Bon, si par exemple on réinterviewe maintenant ces bases de données, maintenant, là j'avais fait sortir compress sensing, on va faire sortir deep learning par exemple. Parce que beaucoup de gens s'y intéressent et beaucoup de gens se réfèrent à ça par rapport à d'autres problématiques qui sont liées. Et c'est pas forcément quelque chose qu'il faut graver dans le marbre instantanément pour ensuite voir que bon, c'était une bonne idée à un moment, mais c'est pas quelque chose qui a une durée de vie forcément aussi gigantesque. Voilà.